Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Bonjour, merci. Je voudrais demander deux questions. Une, c'est Emoudink dans tout ça. Et après, vous avez dit que en fait, il y a des plantes qui favorisent ça. Et j'ai une question qui dure depuis très longtemps par rapport à tout le côté juridique, tout l'état de droit. En fait, vous avez dit que les lois de protection, elles sont très fortes. Mais à la fois, vous avez dit, c'est eux qui ont perdu parce que, en fait, ils étaient incompétents, quoi. Ils n'ont pas été si forts dans l'argumentation, dans tout. Ils étaient en confiance. Si ce n'est pas le cas, bah, c'est plutôt quels sont les potentiels et les risques du système juridique qu'on a. En quoi ça peut être un soutien ou pas.
Peut-être là, je vais répondre direct parce que, en fait, ce que j'ai dit, c'est eux qui ont perdu, mais ils ont perdu parce que leur dossier est mauvais. En fait, leur dossier est mauvais parce que leur projet est mauvais. Ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient. En fait, alors ils auraient pu essayer d'un peu mieux enrober certaines choses. Mais en réalité, leur autoroute, elle ne se justifie pas. Elle ne se justifie pas. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut retenir, quand même, moi, je trouve intéressant, c'est qu'on peut... Enfin, si, et d'ailleurs, ils disent, mais ils ont raison. Et là-dessus, je trouve que, y compris la manière dont on a défendu le projet, la décision n'a pas été assez forte. En fait, ils disent, mais ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire, on ne peut plus faire aucun projet. Si on applique aujourd'hui le code de l'environnement, la nécessité de protéger la biodiversité qui devient très rare, enfin, qui s'effondre et tout. Si on regarde bien, si on applique le droit de l'environnement, effectivement, il n'y a à peu près aucun grand projet qui pourrait être fait. En tout cas, dès lors qu'ils artificialisent des terres, qu'ils détruisent de la biodiversité, il faudrait vraiment... Il y a un cas, par exemple, en Bretagne, où des associations ont perdu, et où là, le tribunal a vraiment fait le boulot de tout éplucher, et où visiblement, le dossier était bien fait du point de vue du code de l'environnement. Ils disent, on a cherché tous les sites alternatifs. On a vraiment dit qu'il y avait besoin de cette production d'électricité. On a vraiment montré qu'on faisait toutes les mesures et même plus que ce que nous exige le code pour préserver et compenser des espèces. Et donc là, le tribunal dit, là, le dossier remplit toutes les exigences. Mais ils ont fait vraiment ce boulot-là et ils ont montré qu'ils avaient cherché à optimiser leur projet. Mais tous les autres projets, ils passent comme ça, mais pas que parce que le dossier est mauvais, parce que leur projet en fait, ne se justifie plus aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Il y avait les enjeux qu'il y a de mettre en balance la préservation du vivant, de la nature par rapport. Et votre première question, c'est Emoudink dans tout ça. Emoudink, on sent qu'il s'est fait discret sur le coup de l'autoroute. Il a dit qu'il était pour, mais il ne s'est pas trop mouillé. Ça ne le concerne qu'à moitié, puisque l'autoroute, est, en fait, la partie d'autoroute nouvelle, elle va de Verfeil jusqu'à Castres. Pour le reste, ça ne le concerne pas trop. On sent qu'il a cherché à pas trop se mouiller dans ce dossier-là, mais il n'a pas de responsabilité non plus directe dans le dossier, donc il a senti qu'il n'avait pas des points à gagner, à mon avis. Après, ça, c'est globalement sur le dossier. Je veux quand même dire que sur l'histoire de Morin-Scopon, il pourrait être impliqué. Parce que l'histoire du château de Morin-Scopon... Je vous ai parlé de Jean Terlier, tout ça. En fait, elle remonte à très loin. Il faut savoir que Dominique Baudis a été président de l'association pour la renaissance du château de Scopon. Lionel Jospin en a été vice-président en même temps que Baudis. Et qu'en fait, ça va très loin. Et qu'il y a en fait... Comment dire ? Je ne sais pas si vous avez vu, ça me fait penser un truc. Je fais une aparté. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron est venu faire quelque chose à Toulouse, dont une conférence ou je ne sais pas quoi, une prise de parole contre la désinformation sur Internet. Il avait assis à côté de lui, je ne sais pas si quelqu'un a vu ça, Jean-Michel Baillet, président directeur de la Dépêche du Midi. Bon, je dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on prend l'histoire du sud du Tarn, quand on prend l'histoire de Morin-Scopon, il faut savoir que le château de Scopon a une histoire très forte avec Brive, qui était l'ancien sénateur, président du département du Tarn, qui était parti radical de gauche. Le même parti radical de gauche que Jean-Michel Baillet, donc la mafia cassoulet, on va dire, pour aller vite. Donc la dépêche du midi, et que tout ça, quelque part, est entremêlé depuis des dizaines d'années. Et dans tout ça, la mairie de Toulouse a joué un rôle d'opposant ils ont leur propre réseau et leur propre truc, hein. Mais en l'occurrence, ils étaient opposés aux radicaux de gauche, et du coup la mairie de Toulouse s'était impliquée, Baudis et y compris Moudenc d'une certaine manière, et le fait qu'aujourd'hui il se retire du truc, il y a peut-être des choses qui lui retomberont dessus, mais c'est juste par rapport à la plainte dont je parlais là. Après, sur l'autoroute elle-même, il a été prudent. Alors, juste, c'est vrai que je voulais le faire, mais c'est long et enfin, ça peut être compliqué. Tout le monde a en tête que dans la justice, il y a deux grandes branches. Il y a la justice administrative, il y a la justice judiciaire. La justice administrative, c'est celle où on va devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel, éventuellement le Conseil d'État, sur laquelle on conteste la légalité des autorisations que le préfet a pu donner. Et on dit qu'il devait respecter la loi pour autoriser les dérogations dont on parlait tout à l'heure sur la biodiversité et tout. Il ne l'a pas fait, on conteste. La justice administrative peut rétablir la légalité et dire ben non, votre autorisation, elle est nulle et non avenue, elle n'existe plus, donc l'autoroute doit s'arrêter. Ça, c'est tout le volet administratif. Et à côté, il y a le volet judiciaire, dans lequel il y a notamment les plaintes pénales qu'on a pu déposer sur le fait qu'ils avaient détruit de la biodiversité en bande organisée, en n'ayant pas les autorisations pour le faire. Et même si par ailleurs on conteste ces autorisations, mais en tout cas on dit au jour où les actes ont été créés, c'est ces autorisations qui existaient, qui avaient fixé ce calendrier-là, et vous avez coupé en dehors de ce calendrier, donc vous avez commis un délit. Ou alors vous avez peut-être fait des trucs qui carrément n'étaient pas du tout dans l'autorisation, donc en tout cas, vous commettez des délits. Donc là, on va devant la justice pénale, on dépose des plaintes. Quand les procureurs ne veulent pas instruire, ne donnent pas suite, on peut se constituer partie civile, en particulier en tant qu'association pour la protection de l'environnement comme nous, agréée. Donc là, on saisit le juge d'instruction qui peut, à partir de là, mener une instruction. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le juge d'instruction, c'est quand même, dans la justice, c'est un des rôles qui a le plus fort pouvoir. Je ne sais plus, je ne veux pas dire une erreur, il me semble que c'était le juge Alphen qui avait fait récupérer un homme politique au sommet d'une montagne dans l'Himalaya. Comment ? En hélicoptère, voilà. Donc c'est, voilà. Sur le Bucalet de Braise en Bretagne, c'est le juge d'instruction qui a décidé de faire remonter le bateau coulé qui était à je ne sais plus combien de centaines ou de milliers de mètres, donc pour pouvoir regarder la coque et en déduire finalement que c'est un sous-marin militaire qui avait fait que le chalutier de pêche avait coulé. Donc un juge d'instruction, il peut avoir des pouvoirs extrêmement importants s'il décide d'instruire. Et donc, du coup, là, on a saisi les juges d'instruction à Toulouse et Castres pour celle de Morin-Scopon de nos plaintes sur destruction de biodiversité en bande organisée, sur prise illégale d'intérêt, faux usage de faux sur Morin-Scopon, et pour mise en danger de la vie d'autrui avec faux usage de faux sur le fait que l'autoroute passe sur des kilomètres et des kilomètres en zone inondable, alors qu'ils auraient pu passer ailleurs, et surtout que sur au moins 500 mètres, on a les preuves qu'ils ont bidouillé le dossier pour pas montrer qu'en cas de crue décennale, l'autoroute serait inondée sur au moins 500 mètres avec 1,30 m d'eau, ce qui est strictement interdit. Et ils ont caché dans leur dossier, ils ont modifié les cartographies, ils ont modifié les hauteurs d'eau. Donc là, on a des plaintes là-dessus. Et donc là-dessus, les juges d'instruction pourraient, bon, ils devraient instruire, de me poser des questions et tout, mais ils pourraient aussi décider, eux ou elles, d'interrompre le chantier sur cette base-là. Donc, en parallèle de la justice administrative, si la justice pénale et notamment le juge d'instruction s'en saisissaient vraiment, il y a aussi cet axe-là. Et les deux, en fait, sont en parallèle. Et c'est un des axes sur lesquels les Amis de la Terre, on s'est vraiment mis, c'est le volet pénal, par les plaintes sur lesquelles j'ai rédigé. Et aussi parce que, pour nous, au-delà du cas de la 69, c'est juste pas possible que, alors que tous les voyants étaient au rouge, comme je l'ai dit, tout ça puisse se faire avec tout ce qu'on a dit, au vu au sud de tout le monde et tout ça. Donc, on veut vraiment aller jusqu'au bout. Pour dire comment est-ce que dans des projets comme ça, on en arrive à ce niveau-là de délinquance à visage découvert de la part des principaux responsables qui sont censés, en principe, défendre l'intérêt général et défendre la loi. Et là, alors, quand est-ce qu'on aura la... On verra quand ça va être traité. Il faudrait qu'on mette de la pression. Au passage, je le dis, on a besoin d'argent pour tout ça. Il y a une cagnotte sur le site des Amis de la Terre. N'hésitez pas. Parce que tout ça, même si on en fait une bonne partie bénévolement de rédaction de plaintes et tout, il y a un moment, on a besoin d'avocats, d'avocates, et ça nous coûte de l'argent. Si on veut que tout ça aille jusqu'au bout, en fait. Parce qu'on a la presse nationale qui ne nous suit pas beaucoup. Enfin, on a beaucoup de mal. On est loin, quand même, de Paris. Voilà.
J'ai retrouvé le titre de l'ouvrage là, que j'avais regardé. Le titre, c'est, dans l'auteur, c'est Nelo Magalhães, un nom portugais ou brésilien, Accumuler du béton, tracer des routes, une histoire environnementale des grandes infrastructures, paru en 2024 à La Fabrique. Cet ouvrage donne une excellente idée de ce que peuvent nous coûter les infrastructures, les grandes infrastructures autoroutières en particulier, depuis les années 60, 70, où tous ces plans ont été mis en œuvre. C'est assez instructif et je recommande fortement la lecture. Voilà.
Compte tenu du climat juridique un peu quand même curieux dans le sud du Tarn et de l'historique de cette affaire, dans quelles conditions est-ce qu'on peut obtenir une délocalisation, en particulier en cour d'appel, par rapport à Bordeaux, par exemple, ou bien Marseille, Montpellier, enfin, Montpellier, c'est peut-être un peu trop près encore, mais Bordeaux, ça serait mieux. Est-ce que des avocats ne peuvent pas obtenir, au vu d'une argumentation étayée, comme quoi il y a quand même des fortes suspicions de pression, etc., est-ce qu'il n'y a pas moyen de délocaliser ce procès-là?
Est-ce que Gilbert, qui est juste devant toi, peut donner un avis sur ce qui est déjà faisable? Moi, je ne sais pas ce qui est faisable d'un point de vue juridique. Enfin, je ne suis pas sûr de ce qui est faisable. Et après, d'un point de vue opportunité, je répondrai aussi.
Non, je dirais que c'est quand même très compliqué, quoi. Il faut donner des preuves formelles qu'il y a un risque, etc. C'est quand même assez rare, quoi. Voilà ce qu'on peut en dire.
Il faudrait qu'on puisse démontrer qu'il y a vraiment un lien d'intérêt entre un des magistrats ou plusieurs magistrats et les porteurs du projet. Et entre nous, je prends un autre dossier. Au passage, je vous parle qui est au moins aussi scandaleux, même plus, qui est la LGV Bordeaux-Toulouse. Où là, c'est pire. Enfin, moi, je parle d'autoroute ferroviaire et le dossier, il est pire, à tout point de vue. Mais il passe en force et les préfets sont en train de vouloir passer en force. On pourra en parler si vous voulez. Mais le TA de Toulouse avait jugé une annulation de la DUP à l'époque. La Cour administrative d'appel de Bordeaux avait annulé l'annulation du TA de Toulouse. Et là, on le voit dans ce dossier-là de la LGV Bordeaux-Toulouse. On a le TA de Toulouse qui est plutôt... Alors là, je parle du tribunal administratif, hein, de la première instance, qui prend plus le temps d'examiner nos demandes que le TA de Bordeaux, qui pour l'instant balaye tout. Donc, on ne sait jamais. Et sur la Cour administrative d'appel, alors la Cour administrative d'appel de Toulouse, elle est relativement récente. C'est vrai que la quatrième chambre, celle qui juge l'environnement et l'urbanisme, Gilbert est bien placé pour le savoir, a plutôt tendance à être assez contre la protection de l'environnement. Et ce qu'ils ont fait sur le sursis exécution, là où en 3 jours, ils ont décidé que les travaux pouvaient reprendre, montre quand même qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais le président de la Cour administrative d'appel de Toulouse, en fait, il y a la Cour administrative d'appel et à l'intérieur des chambres spécialisées, plus sur des questions de ceci, de cela, et la quatrième, c'est l'environnement et l'urbanisme. Et donc, c'est le président de la quatrième chambre qui a jugé sur le sursis à exécution, le rapporteur public qui nous a expliqué effectivement qu'une autoroute, c'était par principe, par nature, d'intérêt public majeur et que d'ailleurs cette autoroute serait vue dans quelques millénaires de la même manière qu'étaient vues aujourd'hui les anciennes voies romaines et le canal. Voilà le niveau de plaidoirie qu'on peut avoir d'un rapporteur public sur ça. Il a quand même dit quelque chose d'intéressant, il a dit que la RIPM pour lui ça avait un caractère subjectif et tout ça, mais que la non-recherche d'alternative pourrait être un critère d'annulation en appel. Donc, moi je trouve que le rapporteur là-dessus il était resté prudent, mais le juge, le président lui, donc le juge président de l'audience avait dit, en gros, tous vos arguments sont nuls, on est sûr de vous donner tort en appel, donc on permet la reprise des travaux. Bon, on sait que ça ne sera pas lui, on sait que ça ne sera pas le rapporteur, et donc, a priori, c'est que c'est la personne au-dessus de lui, le président du tribunal, qui aurait dit, voilà laquelle va être la composition, et ça ne sera pas ceux qui, effectivement, ont jugé. Et pour le coup, le président de la Cour administrative d'appel de Toulouse était avant à Montpellier, en président de la 4e chambre à Montpellier, donc il jugeait l'environnement et l'urbanisme, et il avait l'air de mieux connaître et de mieux comprendre le droit de l'environnement. Donc, c'est dur a priori de dire il vaudrait mieux aller à Bordeaux qu'à Toulouse. On voit bien que les juges du TA, alors qu'elles avaient une pression énorme, les juges du TA en première instance, c'est évident que, et puis elles croisent probablement en ville des gens intéressés par le dossier, elles ont osé dire le droit parce que le dossier était tellement mauvais. Et là, on se dit qu'à la cour d'appel, leur dossier est tellement mauvais, ils peuvent tellement pas le défendre d'un point de vue juridique, que des magistrats qui, là, diraient cette autoroute est légale. Il va falloir qu'ils se lèvent vraiment tôt et qu'ils trouvent des arguments juridiques sortis de on ne sait pas où. Donc c'est pour ça que la voie est libre, y compris a plutôt dit on est confiant. Et si on peut se dire un truc, c'est que si jamais la cour d'appel annule la décision du tribunal administratif et dit que finalement cette autoroute est légale, c'est que là n'y a plus de droit de l'environnement en France. Voilà, tout, parce que la 69, c'est l'illustration, mais à tout point de vue, d'un projet qui ne peut pas obtenir les dérogations dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne peut pas obtenir une autorisation environnementale préfectorale. Donc si le tribunal dit finalement, moi je considère que si, c'est que vraiment il s'assoit complètement sur le code de l'environnement et la charte de l'environnement et la directive européenne derrière qui préserve la biodiversité et tout ça. Bon, après, la justice, ouais, on n'est jamais sûr avant qu'elle prenne sa décision.
Puisque j'ai le micro, effectivement, je confirmerai que ce que tu disais, c'est que le président actuel de la Cour administrative d'appel de Toulouse, qui était lui-même président là, de la Chambre qui s'occupe de l'environnement sur Montpellier, j'ai eu souvent affaire à lui, effectivement, il était très, très attentif à la protection de l'environnement. On verra ce qu'il en est. Et d'ailleurs, ce n'est pas lui non plus qui sera peut-être président aussi. Ce que je peux en dire au final, quand même, c'est qu'on se rend compte que souvent, le Conseil d'État est parfois plus attentif à la protection de l'environnement que les cours administratives d'appel. Et c'est eux qui font peut-être parfois évoluer le droit dans ce sens. La difficulté, c'est que si, après, si on avait échec devant la Cour administrative, on pourra toujours aller devant le Conseil d'État. Mais alors là, difficulté, c'est que les travaux seront finis, quoi, je veux dire.
C'est un peu ce qui nous pend. Parce que c'est clair pour tout le monde, je disais, il y a deux branches, il y a le droit administratif, il y a la justice administrative et la justice judiciaire, dont pénale. Et dans chacun des deux ordres, il y a première instance, donc le tribunal administratif, pour ce qui est de l'administratif, la cour administrative d'appel, on a le droit de faire appel, et un troisième niveau qui est le Conseil d'État, si jamais on considère qu'il y a une erreur de droit, et le Conseil d'État peut renvoyer devant une nouvelle cour administrative d'appel, en l'occurrence, pourquoi pas dans ce cas-là, Bordeaux ou Montpellier. C'est le Conseil d'État qui éventuellement pourrait dire on renvoie ailleurs. Mais souvent ce qu'ils font, c'est Gilbert Hulka, ils renvoient à une autre chambre de la même cour d'appel, pour commencer.
Je voulais dire la chose suivante. Une impression que j'ai, mais je ne sais pas, j'aimerais savoir si on peut la confirmer. Une impression, c'est qu'on essaye, sur ce sujet, de produire l'irréparable. Je suis passé cet été, fin d'été, sur la route de Castres, là, et je veux dire, sur le coup de 10h-11h, il y avait une grosse activité, les scrappers qui roulaient avec les lumières et tout ça. Bon, je me demande si le calcul, c'est pas de se dire d'ici, je sais pas, novembre, décembre, on aura fini les travaux et il n'y aura plus rien à dire. Est-ce que c'est pas vrai, ça?
Si. C'est ce qui se joue. Mais alors, pareil, alors, je vais introduire une idée, une réflexion. C'est pas, j'ai pas de réponse absolue. Il y a effectivement deux, trois choses. Parce qu'on a on a quelques précédents. Bénac en Dordogne, où le viaduc a été jugé illégal et où là, ils ont. Alors, ça se discute, mais normalement, ils devraient démonter les piles du viaduc parce que c'était pas complètement fini. Il y a Strasbourg, où il y a eu quand même des décisions d'illégalité. Finalement, le contournement était déjà ouvert. Donc, du coup, ils ont régularisé. Alors, il y a deux, trois. Et donc là, on peut se dire qu'effectivement, les travaux ont repris, parce que quand, en février, c'était un des arguments, mais de toute façon, c'est déjà trop tard, ça ne sert à rien que vous annuliez, quand les juges ont annulé, et nous, on a dit, bah, attendez, toute ce qu'on appelle la trace a été dégagée, donc il n'y a plus de végétation juste dessus, mais ils n'avaient pas encore terrassé, ils n'avaient pas rajouté de la chaux, donc du coup, la végétation, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au printemps, en plus, il a beaucoup plu, donc la végétation a vite repris, il y a des petites mares qui se sont créées, il y a des amphibiens qui se sont réinstallés. En fait, si on laisse la nature reprendre ses droits, elle peut reprendre ses droits rapidement. Donc, en février, même si c'était leur argument principal, on a déjà trop avancé, ça sert à rien que vous annuliez, nous, on disait clairement, mais si, il n'y a pas annulé. Et en plus, par principe, c'est pas possible, parce que sinon, ce que je dis, quelqu'un qui grille un feu rouge, on lui dit, ah, mais le feu rouge, c'est bon, on l'a passé, donc maintenant, c'est bon, je peux continuer. A priori, non, en tout cas, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais effectivement, il peut y avoir cet objectif de dire on avance le plus possible. Alors, deux, trois trucs. Dans le cas de Strasbourg, si je ne me trompe pas, je vous ai dit qu'il y avait trois critères obligatoires et cumulatifs pour qu'une autorisation soit légale. Dans les trois, il y en a deux qui sont plus importants que le troisième, quelque part. C'est la non-recherche d'alternatives et l'absence de RIPM. Parce que si on n'a pas pris toutes les mesures qu'il faut par rapport à la biodiversité, c'est aussi un critère d'illégalité, mais souvent les tribunaux trouvent des moyens de faire régulariser le dossier. Vous avez détruit de la biodiversité sans avoir prévu assez de mesures de compensation, allez planter plus d'arbres, allez mettre un peu plus de fric pour compenser, et finalement je vais considérer que votre dossier il était illégal, mais il devient légal. Alors qu'on n'a pas recherché d'alternative, on aurait dû d'abord s'occuper de l'alternative ferroviaire. On a dit devant une commission d'enquête parlementaire que non, on n'a pas recherché la possibilité de faire ça. Là, si jamais enfin, les juges jugent là-dessus, ce qu'ils devraient faire, surtout qu'on l'a davantage développé dans les écritures de nos avocates, elles ont davantage développé ce point encore là pour l'appel. Là, c'est compliqué de dire, on revient en arrière, oui, on va étudier. Eh bien, s'ils étudient, en plus, ils verront que l'alternative ferroviaire, elle fonctionne. Donc, c'est plus compliqué pour eux de régulariser, même s'ils ont déjà beaucoup avancé. C'est quand même, le droit, il dit quand même ça. Alors, le droit, il dit même que si c'est confirmé l'annulation, ils devraient remettre en état. Bon, perso, je ne suis pas pour qu'ils refassent travailler les machines pendant 3 ans pour remettre en état. Plutôt, l'idée serait de dire, on laisse la nature reprendre ses droits, on voit... On fait un peu un point, ensuite on fait éventuellement de l'ingénierie écologique pour rétablir à des endroits où il y a besoin. Peut-être que les tunnels et les bouts qu'ils ont mis de pont, ça pourrait servir de grotte à chauve-souris, je ne sais pas. En tout cas, il faudra faire un vrai état des lieux, parce que c'est vrai que ce serait la première fois qu'un projet aussi avancé, éventuellement, sera annulé, autant avancé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense qu'il y a un truc quand même qui interroge, et sur les intérêts privés et l'intérêt général. Il y a quand même quelque chose de bizarre dans cette histoire depuis le début. C'est que cette autoroute, tout le monde sait, dit, voit qu'elle sera déficitaire.
Oui, c'est là-dessus que je voulais intervenir. Excusez-moi.
Ah, vas-y, ben, pose l'action et après je reviendrai là-dessus.
Ça risque d'être
Ça risque d'être
des questions à deux balles. Hein. Je m'excuse, je ne connais pas. Mais bon, je m'interroge sur l'aspect économique. Donc, je pense que Atosca a obtenu une concession de 55 ans.
15 ans de plus que la plupart que toutes les autres concessions en France.
Pour rentabiliser ces travaux et tout. On sait, d'après ce qu'on a vu dès aujourd'hui, vu le prix du péage et tout ça, que ça ne sera pas rentable. Donc, au bout du bout, qui va payer? Ça va être la région, ça va être l'État, ça va être... Parce que là, je pense qu'ils ont dû bétonner leur contrat, quand même. Si le reste, ce n'est pas trop. Ouais. Mais bon, quand il y a du pognon en jeu... Puis
oui, bétonne. Ça bétonne et ça fait...
Ça doit faire quand même des grosses sommes. Donc là, au bout du bout, qui va payer, quoi?
Alors, du coup, ta question est intéressante parce qu'elle fait le lien en plus avec la réponse que j'allais apporter sur la question d'avant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fameuse DUP, Déclaration d'utilité publique, elle est prise par l'État. Donc c'est les ministères, en l'occurrence c'est Elisabeth Borne, ministre des Transports, qui l'avait signée, celle-là, DUP, en disant « on veut une autoroute ». Ensuite, il y a un appel d'offres, et là, il y a des concessionnaires autoroutiers, des constructeurs d'autoroutes potentiels qui répondent et qui disent « nous, on est prêt à faire ce chantier-là ». En l'occurrence, c'est le fameux Atosca avec NGE, dans un montage financier fait par des personnes qui avaient participé au montage financier du financement des campagnes de Macron en 2017-2022, et qui répond, qui dit « nous, on est moins cher, on est mieux, machin ». Et eux, ils décrochent le contrat de concession. Donc il y a un contrat de concession qui est passé avec Atosca, où ils négocient 55 ans au lieu de 40 habituellement. Où il est dit que dans les 40 premières années, en gros, ils remboursent, mais comme ils savent que c'est déficitaire, ils ont une rallonge de 15 ans, parce que dans les 15 ans qui suivent, donc au bout de la 41e année, ils commenceront là à avoir de l'argent, et là, ils auront tout qui rentreront pour eux, parce qu'en principe, ils n'auront plus de crédit à rembourser. Par contre, tout ce qui rentrera sera pour eux. Donc il y a eu une tentative d'ailleurs de recours là-dessus. Alors le problème, bon, c'est un avocat, comment il s'appelle? Bref, qui l'a fait, mais un peu de son côté, sans regarder trop le dossier. Ça n'a pas été très bien porté, de notre point de vue. C'est dommage parce qu'il y avait des arguments forts là-dessus, ça ne tenait pas la route. Ce n'était pas bétonné, mais bon. Mais du coup, ça pose quand même question, pourquoi un investisseur privé a voulu à ce point-là aller sur cette autoroute-là? Alors, première hypothèse, c'était parce que peut-être que c'est en contrepartie, derrière ils vont avoir d'autres chantiers ailleurs, on leur a promis, on leur a dit prenez celui-là, et comme ça on vous filera telle étoile à l'autre projet. Ou parce qu'ils se disent qu'après cette autoroute, elle irait ensuite jusqu'à Béziers, elle a peut-être des continuités aussi, ou de l'autre côté, elle viendra jusqu'à Castelnau d'Estrettefonds, parce que le projet historique, je le rappelle quand même, c'était le grand contournement est de Toulouse. Castelnau d'Estrettefonds, Gragnac, Verfeil, puis Laurent, Revel, Castelnaudary, Perpignan, voire peut-être une boucle encore jusqu'à Carbone. Dans les scénarios, il y avait un peu tout, mais c'est censé être un grand contournement de Toulouse. Finalement, ils avaient dit on fait que la partie Verfeil-Castres. Et là, revient Moudenc, parce que l'an dernier, on a quand même Carole Delga et Moudenc qui ont fait une déclaration ensemble en disant « Ouh là là, le périph' toulousain est saturé, il va falloir commencer à réfléchir à d'autres solutions. » Est-ce que là, on ne leur aurait pas dit « Prenez ce truc-là qui, pour l'instant, n'est pas rentable, mais en fait, dans pas longtemps, on vous autorise à faire 12 km d'autoroute en plus entre Gragnac et Castelnau-d'Estrettefonds, donc je ne sais pas si vous voyez, au nord de Toulouse. Mais en gros, l'autoroute qui arrive de Montauban, il manque 12 km pour venir relier l'autoroute qui va vers Castres-Mazamet, mais qui en fait passe très au sud depuis Laurent, qui en fait permettrait d'aller à Revel en 15 km. Revel, ils sont en train de faire le contournement pour en fait aller à Castelnaury. Donc en fait, faire passer des camions et autres. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas rentable, mais ça le deviendrait. Ça, c'est peut-être une des options qu'il y a aussi. Voilà. Qu'est-ce qui fait que des investisseurs privés ont à ce point-là voulu faire cette autoroute et pourquoi ils se seraient défendus ? Mais ils ne se sont pas tant défendus que ça. Et ça, c'est l'autre truc sur lequel je voulais attirer votre attention. Quand il y a eu l'audience du sursis à exécution en avril, l'avocat de Atosca, pas l'avocat de Guintoli, a dit devant la cour administrative d'appel qui jugeait le sursis à exécution, nous, c'est pas parce que vous allez nous autoriser à reprendre les travaux qu'on va les reprendre. On discutera avec l'État de savoir si comment ça se passe ou pas. Et si vous avez bien regardé la presse à cette époque-là, c'est le ministre qui est monté au créneau, Jean Terlier, les élus du Tarn, dont des conseillers régionaux, et Atosca, ils disaient, nous, on ne reprend pas comme ça, on va voir, on va y réfléchir. Et en réalité, ils ont vraiment repris les travaux que début septembre, en expliquant qu'il leur fallait le temps de remobiliser les machines et tout ça, mais on n'a pas senti de la part d'Atosca et d'NGE une volonté de vite, vite reprendre les travaux. Bon, aujourd'hui, ils les ont repris plein pot, ils sont en 2-8, ils sont 400, il y a 400 ouvriers sur le chantier, en 2-8, compris des week-ends et tout ça, ils font des tirs de mine pour à 2-3 endroits où il fallait qu'ils passent. Donc là, on sent que le chantier est reparti à fond. Là aussi, moi, j'émets juste une hypothèse, mais c'est qu'une hypothèse, je n'ai pas de preuve. Mais qu'est-ce qui va se passer si la cour administrative d'appel confirme l'annulation du chantier de l'autoroute A69? Donc la question, elle est là, c'est que moi, j'en sais rien. Mais si aujourd'hui la cour administrative d'appel confirme l'annulation de cette autoroute, ce qui est le plus probable, enfin en tout cas, comme je disais, si le droit est appliqué, c'est ce qui va se passer, que va faire Atosca? Parce que qui a signé l'autorisation environnementale de ce chantier? C'est le préfet. Donc là, il va y avoir une discussion entre Atosca et la préfet en disant, parce qu'en plus, on a eu accès à des écrits où Atosca disait au printemps 2022, ça doit être, on n'est pas prêt. Et la préfecture disait, oui, là, il vous manque des trucs. Vous n'avez pas fait les inventaires hivernaux pour les chauves-souris. 2 mois après, en mai, le dossier était complet. La préfecture dit, c'est bon, le dossier est complet. Alors, les inventaires hivernaux pour les chauves-souris, entre le mois de mars et le mois de mai, j'aimerais bien savoir quand c'est qu'ils les ont faits. Donc, c'est pas impossible qu'Atosca se dise, nous, on avait dit qu'on n'était pas prêts. L'État, parce que posture des élus, nous a poussé à démarrer. Là, on l'a revu au printemps, c'est l'État qui a poussé à démarrer. Atosca se dit peut-être, entre attendre 40 ans pour commencer à se rembourser à la 41e année ou se faire annuler le projet aujourd'hui en ayant avancé le plus possible dans le chantier et présenter la facture. Donc peut-être que, dans la logique qu'on dit qu'en fait c'est du béton pour du béton, Atosca, peut-être ils ont effectivement intérêt à ce que le chantier soit le plus avancé possible, mais le fait qu'il soit annulé, c'est peut-être pas une mauvaise opération pour eux.
Dans la perspective de considération économique, est-ce qu'on sait comment le déficit de l'autoroute vers Pamiers est compensé? Qui paye? Parce que cette autoroute est largement sous-utilisée, sauf quelques semaines par an, et le reste du temps, il n'y a pas un chat. Donc là, manifestement, il y a un déficit pour l'exploitant, qui est les autoroutes du sud de la France, hein, ASF, il me semble. Comment c'est payé, ça?
J'ai pas du tout la réponse. Par contre, ce qu'on sait dans le cadre du contrat de concession à 69, c'est qu'effectivement, il y a des mécanismes pour dire que les collectivités, finalement, ne demanderaient pas leur part de retour sur investissement, si jamais. Donc, il y a tout un tas de mécanismes qui font que le déficit... Dans un autre domaine, vous savez qu'ici, je crois que c'est à Toulouse, là, les concessions Vinci sur les parkings, il est dit que même si les parkings sont vides, de toute façon, Vinci touche le fric à la fin. Donc, de toute façon, il y a tout un contrat de concession où les concessionnaires, de toute façon, ils sont gagnants quoi qu'il arrive. Donc là, il faudrait voir. Bonjour.
Oui, ce sont les clauses contractuelles qui sont confidentielles.
Alors, qui étaient confidentielles. Oui. Et comme l'avait fait remarquer Christine Arrighi, alors qu'elle était rapporteure spéciale des questions de transport à la commission des finances de l'Assemblée. Normalement, à ce titre-là, elle aurait dû avoir accès au contrat de concession. Quand elle a demandé la première fois, les parties justement sur les contreparties, les mécanismes financiers étaient caviardés, comme on dit, ils étaient noircis, on ne voyait pas ce qu'il y avait dessous. Et derrière, c'est uniquement une fois qu'elle a été... Oui, allez-y, allez-y. Merci, d'ailleurs. Ça servira au suivant, mais au moins voir pourquoi et comment ça ne marche pas. Et du coup, elle l'a eu, par contre, dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur la 69, elle a réussi à avoir le contrat de concession, et où là, elle a vu toutes les parties, toutes les choses que je vous dis, le fait que les collectivités pouvaient se retirer leurs exigences si jamais ce n'est pas assez rentable, le fait que c'est au bout de la 41e année qu'ils se remboursent, et tout ça. Donc ça... Elle a eu, parce que commission d'enquête parlementaire, où ils essayent d'opposer à chaque fois le secret des affaires, ou éventuellement. Bon, mais il y a des limites quand même au secret des affaires sur des choses comme ça.
Même audio, une mémoire sonore.
C'est juste un complément sur la question de la 66 qui va pas mieux. C'est que il y a effectivement des systèmes de compensation qu'on ne connaît pas, mais dès le départ, il y a des investissements qui ont été pris en charge par les collectivités territoriales, je pense notamment Haute-Rive, Naïou, etc. Parce qu'effectivement, le concessionnaire avait dit, mais de toute façon, votre sortie de péage là, c'est impossible, il n'y aura personne qui va le prendre. Et c'est les élus locaux qui ont dit, ah, écoutez, nous on y tient absolument, donc on est prêt à tout payer. Voilà, petit complément.
Alors, peut-être, enfin, sauf qu'il y a d'autres questions.
Oui, le rôle des élus locaux est intéressant aussi, parce que sur le parcours de la 69, il y a un certain nombre de communes et de maires qui sont plutôt dans l'opposition, mais d'autres qui sont tout à fait favorables, avec là aussi des intérêts particuliers qui peuvent les intéresser au niveau des sorties d'autoroute.
Voilà. Bah, quand vous regardez la carte des communes qui sont pour ou qui sont contre, les communes qui ont effectivement une sortie d'autoroute à proximité sont plutôt pour, celles qui sont traversées en ayant que le bruit et que les désavantages sans sortie d'autoroute sont plutôt contre. Et où après, quand on interroge un peu les gens sur place, y a des gens qui ont des biens immobiliers, qui se disent que peut-être ça va prendre de la valeur. Clairement, après, on va chercher dans l'intérêt privé et personnel. Et par contre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que les commerçants du centre-ville de Castres, après la décision du tribunal administratif, moi j'étais allé dans Castres, mais il n'y a quasiment aucun commerçant dans Castres qui avait mis des affiches pour la manifestation et ou contre, enfin pour la reprise de l'autoroute. Parce qu'on peut se dire que tout le petit commerce dans Castres voit très bien le problème que ça va lui poser, où les gens viendront à Toulouse faire éventuellement du shopping le samedi, voire iront à la première sortie d'autoroute où ils sont en train de construire une énorme zone commerciale. Moi, je me suis fait agresser aussi par le directeur du Super U de Soile, qui est juste en face de Pierre Fabre, alors qui m'agressait parce que les gens de Pierre Fabre ne viennent pas consommer chez lui, qui m'agressait parce qu'il en avait marre d'avoir de la boue sur son parking et qui voulait que cette autoroute soit s'arrête, soit se finisse. Mais qu'en même temps, si elle se finissait, c'était un scandale parce qu'il y avait un énorme centre commercial qu'elle ouvrirait un peu plus loin et que son Super U allait y perdre. Et que si on pouvait gagner, ça serait quand même bien, au final. Donc, dans les intérêts... Parmi tous les gens qui ont des intérêts privés, il y a des intérêts privés qui n'ont pas du tout intérêt à cette autoroute. Voilà, ça c'est sûr. Donc on en revient bien que derrière, c'est le BTP et toute la chaîne qu'il y a eu derrière. Plus, bon, voilà, vous avez vu aussi la petite mafia locale qui a, fait des actes d'intimidation devant des opposants à l'autoroute avec des graffitis, avec l'affichage de noms sur des panneaux, sur des ronds-points. Ils ont été arrêtés, c'est des notables du coin de Castres-Mazamé ou leurs enfants. C'est peut-être pas eux directement, mais en tout cas, vous avez vu aussi qu'il y a des barbouzes qui ont été financés pour aller mettre le feu devant la maison d'Alexandra, qui était la dernière habitante du tracé à Verfeil. Donc, on a vu que c'est des vigiles, enfin une société de gardiennage du chantier dont les gars sont venus faire ça. Au début, Atosca a dit qu'ils ont fait ça de leur propre initiative. Derrière, il y a des preuves qui montreraient que non, Atosca les a laissés faire voir, encouragés à venir intimider la dernière locataire d'une maison sur le tracé qui ne voulait pas partir tant que son bail n'était pas épuisé. Donc ça va derrière la défense des intérêts privés dont on parle, et le BTP est capable quand même de recourir à des méthodes. Voilà. Et on parlait tout à l'heure de Sivens, mais sur Sivens, on sait aussi qu'il y avait d'énormes intimidations, on sait qu'il y avait des intérêts locaux, on sait que c'est notamment toute la mafia dont je parlais tout à l'heure, Radical Cassoulet, qui était quand même bien impliquée dedans aussi. Et donc, moi je le dis ça comme ça. Il y a des moments dans la lutte, par exemple, pendant le siège de la Crémarbre, ils empêchaient de boire, ils empêchaient de manger, les gardes mobiles étaient là vraiment pour permettre les coupes d'arbres face à ce qui était évidemment illégal. Derrière, un jour j'y suis allé, il y avait plus que peut-être 100 manifestants, tout le monde était masqué, tout le monde. J'étais le seul à être démasqué. J'ai pris la parole pour dire cette coupe d'arbre est illégale, il faut que les gardes mobiles qui soient là à un moment se retournent et s'en prennent aux délinquants qui sont là. J'ai juste dit ça. Hein. Mais après, je suis vite parti et je suis rentré à Toulouse. Parce qu'on a quand même été à des moments de peur, en fait. Il n'y avait plus grand monde qui osait vraiment à un moment s'exprimer. C'est quand même... Alors voilà, on a réussi à desserrer l'étau avec la commission d'enquête, avec tout un tas de choses, la justice qui s'est prononcée, mais quand on s'attaque à ces systèmes-là, forcément, et puis avec ce qui était dit tout à l'heure, ils ont des machines qui leur coûtent un pognon de dingue, comme dirait Macron. Par exemple, je leur ai dit, pourquoi vous ne bossez pas sur le ferroviaire ? Ouais, mais ce n'est pas les mêmes machines pour bosser sur le ferroviaire et tout ça, donc en gros, eux, il faut qu'ils fassent de l'autoroute, il faut qu'ils fassent de la route, de l'autoroute ou de la LGV, parce que c'est un peu les mêmes machines. C'est pour ça que je parle aussi d'autoroute ferroviaire, parce qu'en fait, il faut qu'ils... Enfin, rénover des voies ferrées qui font 4 ou 5 mètres de large, c'est pas leur machine, c'est pas leur truc, c'est pas leur technique. Et là, ils ont des machines. Vous voyez, les agriculteurs, ils sont endettés sur des dizaines d'années avec leurs tracteurs. C'est pour ça qu'ils continuent à faire du labour, à mettre de l'engrais, à mettre des pesticides. Là, le BTP, c'est un peu la même problématique. Ils ont acheté des machines qu'il faut qu'ils rentabilisent sur des décennies. Donc, il faut qu'ils bouffent de la terre, en fait. Et c'est ça qui se joue aussi derrière tout ça. Alors après, avec des politiques à qui ça va bien...
Si ça sort un petit peu, mais je profite de parler des violences. En fait, il y a eu des... Oui, c'était très fort. Et il y a eu un moment où des opposants, j'imagine, ont mis feu à des machines. Et du coup, nous, on n'en parle pas beaucoup. Mais j'imagine que de l'autre côté, ils en parlent ou qu'ils l'utilisent. Je ne sais pas, j'étais plutôt curieuse de quelle place ça prend dans les jugements, dans cette économie, dans tout ça.
C'est ce que les militantes et militants appellent du désarmement, en soulignant toujours qu'ils s'en prennent à des machines. Ils ne s'en prennent pas à des individus, contrairement à ce que les autres font. Voilà, donc, mais ça, le mode d'action se discute, ou en tout cas, il pose des vraies questions. D'ailleurs, les soulèvements de la terre, Darmanin, ministre de l'Intérieur, avait voulu faire dissoudre les soulèvements de la terre, au motif que c'était alors, une association de fait, parce qu'ils ne sont pas assommés, qu'ils étaient violents. Ce qui a été rappelé notamment, c'est que la violence, ça concerne des actes sur des personnes. Et que même si les soulèvements de la terre revendiquent des actes de désarmement, ce n'était pas de la violence, en tout cas pas de la violence sur les personnes, et ça fait partie des arguments qui ont été développés et qui fait qu'au final, le Conseil d'État a considéré que les soulèvements de la terre n'avaient pas à être dissous. Donc, dans les logiques de légitime, de désobéissance civile, d'état de nécessité... Bon, par exemple, il y a des militantes et des militants à Toulouse, au tribunal judiciaire, qui ont été relaxés. Donc, certaines, pour être montées en haut de têtes d'abatteuses d'arbres, vous avez vu comment quand ils coupent les arbres, ces espèces de grosses machines là, qui arrivent, ça coupe en quelques secondes, les arbres ils tombent. Bon, il y avait des militantes et des militants qui avaient essayé de monter sur les têtes pour empêcher qu'elles coupent. Il y a eu des relax au nom de la liberté d'expression et quelque part du droit d'alerte. Et si je ne me trompe pas, Thomas Braille, lui, pour avoir occupé des arbres, a même été relaxé dernièrement pour état de nécessité. L'état de nécessité, vous savez, c'est quand l'exemple qui est donné classique en droit, qui est un peu genré, mais qui permet de comprendre, c'est la mère de famille qui n'a plus du tout d'argent, qui vole de la nourriture pour nourrir ses enfants. Quand il y a un danger imminent, enfin grave de survie, le fait de commettre un acte illégal, en l'occurrence le vol, n'est pas réprimé parce qu'on considère qu'il répond à un état de nécessité. Bon, mais le même raisonnement s'est appliqué là au fait que d'occuper des arbres en état de nécessité pour dire que sinon ils allaient être coupés alors que le projet derrière était illégal. Et qu'une fois que les arbres étaient coupés, ben, c'était fini. Donc ces actes-là, même par la justice pénale, sont considérés comme... comme pouvant se comprendre, au moins pour certains. Alors là, je ne parle pas d'engins qui ont brûlé hein, dans les cas que je donne. Voilà. Par ailleurs, les juges nous disent qu'elles instruisent, qu'il y a tout un tas d'enquêtes et tout. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de personne qui a été trouvée sur ce terrain-là. Si je reprends le sujet de la LGV, on nous dit qu'il y a des endroits où ça brûle et tout ça. Bon, là, j'ai vu un truc hier, c'est du vol de cuivre en fait, qui provoque des incendies de transformateurs. Alors ça apparaît comme... voilà. Et en plus, il y a des groupes de militants alors à Lille ou je ne sais pas où qui revendiquent ou qui saluent le fait que la voie ferrée est brûlée. On ne sait même pas si c'est des militantes ou des militants qui l'ont fait. C'est peut-être qu'il y a eu du vol de cuivre, ça provoque un incendie. Donc, bon, alors, les engins sur la 69, je pense qu'ils n'ont pas pris feu tout seuls. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien, mais voilà. Mais en tout cas, ça s'inscrit dans ça et dans ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si la justice a apporté l'attention particulière, méticuleuse qu'elle a apportée au niveau du tribunal administratif, c'est indéniable que c'est aussi parce qu'il y a tout ce contexte-là autour. Bien sûr, les grèves de la faim de la soif, les occupations des arbres, les occupations au sol, cette médiatisation, et c'est ça qui est terrible. Et les médias ne parlent du sujet, ça c'est l'autre problème. Que quand il y a des actes comme ça, on en revient toujours au même. C'est ce à quoi on en est arrivé. Et de fait, il y a des personnes qui en tirent ces conséquences-là et qui disent ben, c'est ces actions-là qui permettent de faire parler du dossier. Et indéniablement, ce dossier a reçu une attention particulière de fait de tout ce contexte.
Alors moi, j'ai deux questions. Il y en a une notamment sur le siège de la CREMAT dont vous avez parlé. Alors je voudrais juste rappeler les faits, ce dont je me souviens, parce qu'on était à la journée d'action qui a conduit à l'occupation de la CREMAT par les militants. Donc c'était ce jour-là où il y avait cette course de chars, où on était, je sais pas, environ 5000 personnes à Saïx. Et donc une fois que tout ce petit monde est parti, je crois qu'il restait quoi, une centaine de personnes, principalement des scientifiques et des représentants des mouvements qui ont occupé la ferme, c'est ça ?
Il y a plus de monde que ça, je crois, mais oui.
D'accord.
Et il y avait une conférence des scientifiques de la Técopole.
Oui. Voilà, j'ai entendu ça.
Et donc,
il paraît que l'évacuation, et c'est là-dessus que les médias auraient dû plus insister, à mon sens, a causé 30 ou 40 blessés parmi ces personnes-là. Alors, je voudrais juste savoir si vous confirmez ces chiffres et à peu près quelle était la nature des blessures, parce que moi, ça me semble grave quand même, et on n'en a pas beaucoup parlé. Et ma deuxième question, c'est vous avez parlé de besoins financiers tout à l'heure, c'est plutôt pour les Amis de la Terre ou plutôt LVEL ?
Alors. Du coup, là, clairement, les Amis de la Terre, nous, on a besoin de financement pour aller sur l'action pénale. Les plaintes au pénal dont je vous parle, c'est les Amis de la Terre qui les avons, c'est nous qui les avons alors, rédigées et déposées. Pour l'instant, on l'a fait. Là, on a fait intervenir des avocates et des avocats pour mettre en forme et pour ensuite faire l'interface avec le juge d'instruction et tout ça. Donc, là, on a clairement besoin, nous, Amis de la Terre, sur notre cagnotte Stop à 69, de soutien financier. Stop à 69, c'est une cagnotte pour qu'on puisse mener l'action pénale. Sachant qu'LVEL a une cagnotte générale, le GNSA a aussi mis une cagnotte à 69 pour soutenir ses actions dans les armes et tout ça. Et a priori, donc LVEL a porté l'action administrative, et nous, on a y compris relayé la cagnotte LVEL pour l'action administrative, puisqu'on est 14 co-requérants et association co-requérante, et là nos avocates sont payées, elles vont être payées pour au niveau de la cour administrative d'appel. Donc du coup, ça c'est la cagnotte principale que gère LVEL sur ce volet-là du recours administratif. La cagnotte qu'on a mise
sur
la 69 des Amis de la Terre,
c'est pour arriver
à aller plus loin dans ce que je vous disais, c'est-à-dire arriver à creuser les responsabilités pénales et tout. Et là c'est une action qu'on mène. Le GNSA est dans la boucle avec nous, l'UPNET, FNE 80 est aussi dans ces trois plaintes, au Secours 31 sur celle sur les inondations, j'oublie Attaque peut-être sur celle sur Morin-Scopon. Voilà, donc il y a les autres structures qui sont avec nous, mais c'est Amis de la Terre qui portons les plaintes pénales principales, celles dont je vous ai parlé. Ça, c'était ça. Il y avait une autre question.
Sur les blessés.
Ah, alors juste, en fait, il y a eu deux temps. Il y a eu le fameux rassemblement qui s'appelait, c'était le deuxième. Celui avec les courses de voitures, c'était sortie de route. Ensuite, il y a eu Nomacadam, où il y avait cette conférence des scientifiques tout à fait pacifique, et tout d'un coup, les flics ont débarqué, ont tiré des lacrymos partout, dans les chaumes, en plus, quand on commence à prendre feu, et où il y a eu des blessés. Je n'ai pas le chiffre, mais ça doit être à peu près ça. Et suite à ça, après, il y a eu l'occupation d'un bois un peu plus loin, qu'on a appelé la crème arbre, qui a été appelée la crème arbre, qui est à 200 mètres de là, et où il y a eu le fameux siège, et ça a été bien après, enfin, plusieurs mois après. Et là où il y avait eu Greta Thunberg qui est venue, où il y a eu là, c'était la cabanade en fait, qui s'est organisée là et qui a permis de mettre un peu plus ce lieu en évidence. Donc il y a eu des blessés effectivement à ces moments-là. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés dramatiques. À part que quand il y a eu la crème arbre, moi j'ai alerté aussi à des niveaux en me disant oulala, parce que ce que nous disaient les militants, c'est on est décroché dans les arbres. Les flics essayent de monter et ils seraient prêts à nous faire tomber sans faire gaffe. Donc, ils sont prêts à faire tomber quelqu'un. Est-ce qu'il y a un mort comme à Sivens? Donc, ça ne va pas du tout. Donc, là, on a alerté au maximum. Le rapporteur spécial de l'ONU est venu. Est-ce que ça les a calmés un peu? On ne sait pas trop. Les observateurs des pratiques policières dont Stella pourra parler a été présente sur beaucoup et a probablement les chiffres. Et ce que je voulais dire, c'est que par contre, là où il y a eu des blessés, et ça, c'est d'autant plus grave et choquant que. C'était évident qu'ils ont fait en sorte que les gens tombent des arbres. C'est un autre lieu encore qui s'appelait la Calarbre, un peu plus loin à Saïs, où là, il y avait des chênes qui étaient occupés. Il y avait un fortin qui avait été construit en palette, qui s'appelait Bourg-Palette. Là, il y a quand même un militant qui était à 8 mètres de haut, au milieu des palettes. Les flics sont montés, il leur a dit « Attendez, montez pas, montez pas ». Il a mis ses bras en l'air « montez pas, c'est bon, je me rends et tout ». Là, ils l'ont fait tomber, il a fait une chute de 8 mètres. Il a des plaques de titane pour tenir sa colonne vertébrale aujourd'hui. Il y a deux militantes qui sont tombées d'un chêne 4-5 mètres de haut parce que les flics sont venus pour les prendre à 6 heures du mat par surprise au réveil. Donc elles sont tombées de l'arbre. Donc là, il y a eu des fractures. Voilà. Donc il y a eu des blessés quand même. Et on a clairement évité le pire. Mais il y a quand même eu des blessés relativement graves et qui auraient pu être encore plus graves de la manière dont les forces de l'ordre sont intervenues sur ces situations-là. Alors que de nouveau, on disait que ces arbres ne devaient pas être coupés à ce moment-là, qu'il y a des plaintes sur ce site parce que la manière dont ils ont coupé les arbres n'aurait pas dû avoir lieu là. En plus de la mise en danger des militants et militantes qui occupaient ces arbres-là. Voilà ce que je peux répondre, mais peut-être Stella.
Oui, alors, on va prendre une dernière intervention avec Stella, parce que l'heure tourne quand même. Et peut-être tu pourras dire aussi un mot sur la conférence sur le backlash qui se tenait ce soir.
J'ai pas trop d'infos. Et après, il y avait une question aussi devant, oui. J'ai dit que je répondrais, mais je me souviens plus. Bon. C'était sur la légalité.
Tu peux reprendre la question parce qu'on n'a pas entendu.
La question, c'est que même si c'est illégal, on n'est pas à l'abri que le tribunal trouve un moyen, on ne sait pas lequel, mais pour dire, en gros, pour fermer les yeux et pour dire, ça peut quand même continuer. Ça, on n'est jamais à l'abri, mais dans ce cas-là, on irait devant le Conseil d'État. Alors, tard par rapport à l'avancée des travaux. Mais avait l'idée de faire reconnaître l'illégalité d'une manière ou d'une autre, quand même, à un moment ou à un autre. Comme je disais, mais avec la justice, on ne sait jamais ce qu'elle va décider, ça.
Oui, je voulais vous préciser, monsieur, là, le jeune homme,
oui.
Bon, si ça vous intéresse, enfin, si ça intéresse la salle, sur le site, enfin, l'état de siège, on va dire, qui a eu lieu sur la Crémarbre, sur le site de la Crémarbre, il y a eu des rapports qui ont été faits. Il y a un observatoire des pratiques policières à Toulouse, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc avec la Ligue des droits de l'homme, le syndicat des avocats de France et la fondation Copernic. Donc depuis 9 ans maintenant, vous nous croisez peut-être en manifestation. Voilà. On a été pendant 18 jours, exactement de février à mars, je ne sais plus exactement les dates, sur le siège de la Crémarbre pour documenter justement toutes ces pratiques policières qui mettaient clairement en danger les militants qui étaient dans les arbres, les écureuils. Michel Forst a dénoncé très fortement ça. Nous, on l'a dénoncé aussi dans notre rapport. Les rapports, vous pouvez le trouver sur le site de la LDH, il y est, ou sur le site du LIST, le laboratoire de Jean Jaurès. Vous l'avez aussi. Donc, vous trouvez ce rapport-là. Il s'intitule exactement... Rapport sur les opérations de police et de gendarmerie dans le cadre des oppositions à la construction de l'autoroute A69, avril 2024. Mais vous tapez pratique, observatoire des pratiques policières toulousain et vous allez tomber sur les rapports, parce que depuis 9 ans, nous faisons des rapports. Michel Forst a bien dit, en venant sur le site, il hallucinait par ce qu'il disait, la France signe toutes les directives au niveau européen sur la protection des militants de l'environnement, et n'est pas capable de protéger, de mettre en œuvre ça sur son territoire. Il y avait clairement des mises en danger, vous le lirez dans le rapport, mais vraiment lisez-le, parce que c'est vraiment... nous, on rapporte, on travaille avec un laboratoire scientifique, on a une méthode scientifique d'observation, donc on ne fait pas ça comme ça au jugé au doigt mouillé. Toutes nos photos sont identifiées, identifiables avec horaire et tout, enfin, géolocalisation et tout. Et... je perds le fil parce que ça a été des scènes épouvantables tous les jours. Oui, ce que je voulais dire, c'est que les CRS et les gendarmes avaient non seulement des groupes qui s'appellent l'ACNAMO, c'est un corps de gendarmes spécialisés dans les interventions en l'air et en haut, etc. Enfin, bon, bref, qui mettaient carrément la vie en danger des militants des écureuils, notamment, vous savez, quand le GNSCA, quand il se sécurise dans les arbres, ils font ce qu'ils appellent des lignes de vie, je crois, ou des lignes, oui, je crois que c'est c'est comme ça qu'ils appellent ça. Oui. Et bien carrément, ces gendarmes tiraient sur ces lignes-là. Qui rendaient les arbres solidaires entre eux pour mettre en danger les militants et les faire tomber. Les opérations dont parlaient Jean d'interdiction de victuailles, d'eau, tout ça, c'était pour épuiser et pour qu'ils viennent à terre. C'était tout simplement ça. Bon, voilà. Bon, j'en dis pas plus. Lisez celui-là, ce rapport, si ça vous intéresse, sur la 69. Sur Sainte-Soline, il y en a eu aussi. Il y a un interobservatoire en France, au niveau national, qui travaille aussi, qui produit des interobservations, parce qu'on est aussi plusieurs sur certains sites. À Sainte-Soline, on était plusieurs observatoires. Bon, voilà, c'est édifiant de voir cette politique du maintien de l'ordre. Et là, c'était très édifiant de voir, Jean, on parle depuis le départ, cette pression politique, il faut le dire, et de l'exécutif sur cet enjeu de la construction de la 69. Voilà, merci.
Oui, alors, juste avant de repasser la parole à Jean pour un dernier mot de conclusion, je dirais, on a, le 8 octobre, justement, l'Observatoire des pratiques policières a fait ici même, à la salle du Sénéchal, une conférence sur ce sujet-là. Donc, elle a été enregistrée, comme celle de ce soir aussi. Elle est sur le site des Amis du Monde Diplomatique. Vous pourrez retrouver la conférence avec les slides qui ont été mis en ligne aussi. Donc, vous avez tout le détail sur le site des Amis du Monde Diplomatique. Vous cherchez Amis du Monde Diplomatique, vous trouverez assez facilement sur le réseau. Et après, ce que je disais tout à l'heure, c'est la conférence qui s'est tenue en même temps aujourd'hui que celle-ci. C'est à la salle aux 7, alors c'est concours de circonstances, c'est ce qu'ils appellent le backlash. Alors, le backlash, en fait, c'est ce que représentent les gens comme Trump en particulier, ce retour, qui veut la peau de l'écologie, c'est le sous-titre de la conférence ce soir chez eux. Et donc, je pense qu'il y aura des retours aussi, puisque je crois qu'elle est filmée aussi, cette conférence. Et donc, ils ont rédigé un ouvrage aussi, l'Hortelière, Jean-Michel Huppé, qui sont de l'Université de Toulouse, et Fressoz, son prénom, c'est Jean-Baptiste Fressoz, aussi, qui est l'historienne de l'environnement. Et donc, cette conférence, voilà, c'était donc Green Backlash, voilà, qui veut la peau de l'écologie. Vous trouverez ça aussi sûrement dans les choses. Voilà. Je n'en dis pas plus pour ce soir. Je vous remercie d'avoir été là et je passe un petit mot pour Jean. Merci. Et merci à lui aussi, surtout.
Peut-être en deux, trois. Alors déjà, Stella, du coup, a parlé de l'Observatoire des pratiques policières dont elle fait partie par la Fondation Copernic. Et c'est, là, tu as parlé de 19 jours d'observation en continu. Donc, c'est des heures et des heures et des heures d'observation avec des gilets fluo de ces situations. Et vraiment, c'est un boulot énorme parce que ça permet de rapporter des arguments en face. Ça a permis de montrer sur le château de Morin-Scopon le rassemblement qu'il y a eu début juillet, qu'il y avait 4 personnes masquées et cagoulées qui en fait étaient des gendarmes. Oui. On s'en doute, on le sait souvent, mais là on l'a vu, vous avez pu le documenter, donc c'était quand même intéressant parce que les personnes sont passées de l'autre côté, on parlait avec les gradés, tout ça. Pendant que Retailleau était en train d'envoyer des tweets, et Emmanuel Macron aussi, en nous traitant de barbares sans limite, hordes de violence et des choses comme ça. Bon, alors qu'ils organisent ou qu'ils viennent faciliter. C'est ce que je voulais dire. Et je voulais juste dire un dernier mot, je pense que sur la 69, j'étais assez complet, mais donc il y a l'audience le 11 décembre. Alors la salle de la cour administrative d'appel n'est pas très grande, mais l'audience est publique. Ça peut être bien, je pense qu'il va y avoir un rassemblement le matin ou je ne sais pas encore, enfin on va s'organiser pour rappeler qu'on est là et qu'on attend que la justice dise le droit. C'est quand même bien qu'un maximum de personnes restent attentives et qu'on se dise que même si le chantier a beaucoup avancé, pour ne pas laisser à la justice laisser passer ce dossier illégal, qu'il faut rester mobilisé dans les temps qui viennent. Sur les affaires pénales, on vous tiendra au courant, on va essayer de mettre la pression, mais pareil, il faut qu'on ait du temps, il faut qu'on ait un peu d'argent aussi pour que nos avocats y travaillent. Voilà. Et surtout, ce que je voulais vous dire quand même, parce que là je parle d'un chantier effectivement très avancé, mais la LGV Bordeaux-Toulouse, on est en plein dedans. C'est une autoroute ferroviaire. Contrairement à ce qui est dit, ça ne décarbone rien du tout. Le chantier ne serait pas équilibré en termes carbone avant au moins 30 ou 40 ans, d'après les chiffres de la SNCF, qui sont complètement pipeaux. Parce que les quantités de matériaux qu'il faut, à une époque, ils parlaient de faire venir de la terre depuis la Chine en cargo, tellement il en faut pour faire les remblais. Et le fait surtout aussi que cette LGV est justifiée principalement par un report modal de l'avion vers le train, alors que la fréquentation de trafic aérien Toulouse-Paris s'effondre en fait depuis 5 ou 6 ans, où les gens ils font des visioconférences, ils ne vont plus à Paris pour la journée. Donc aucune justification, et où pendant qu'on fait ça, où on va détruire, alors là c'est pas 400 hectares, c'est 4000 hectares, de terres agricoles naturelles dans des zones hypersensibles du sud Gironde, avec des zones humides, des forêts vieilles de 40 000 ans, une prise d'eau potable si on parle de Saint-Jory. Et là, le préfet a signé des autorisations pour la partie nord de Toulouse et sud de Bordeaux, mais avec des dossiers carrément plus mauvais que la 69, encore plus scandaleux, où il dégrade les transports du quotidien, où sur le nord de Toulouse, il crée un cisaillement, c'est-à-dire que les trains de proximité en fait, devraient attendre que les autres trains passent. Il crée un goulot d'étranglement en entrée de Matabiau. Il ferait s'arrêter un train sur deux à la vache route de l'Onaguet au lieu qu'il vienne jusque dans Matabiau. Tout ça en mettant 1 milliard d'euros, en détruisant toute la végétation du bord du canal, en atteignant une prise d'eau potable à Saint-Jory. Et actuellement, ils ont ouvert une enquête, enfin, pas une enquête publique, justement, une consultation du public par voie électronique, dont on affirme qu'elle est illégale et dont on a tous les éléments juridiques pour dire qu'elle est illégale, qui ne dure que 30 jours, qui est faite directement sous les services du préfet, au lieu d'être faite sous l'égide de commissaires enquêteurs qui sont normalement désignés par un tribunal administratif, pour délivrer dès début décembre l'autorisation environnementale du début des travaux de la LGV Bordeaux-Toulouse, sur 250 km. Donc la 69, on parle de 53. Avec, du coup, le fait qu'ils ont en plus justifié cette autorisation environnementale pour officiellement uniquement les diagnostics archéologiques et les sondages géotechniques, à part que, pour ça, ils auraient besoin uniquement de 100 hectares d'autorisation, mais qui demandent 1000 hectares, en expliquant, quand l'autorité environnementale leur dit « Mais pourquoi, là, en fait, vous voulez couper tous les arbres pour la suite du chantier ?» Ce que dit la SNCF, c'est « Non, en fait, on a besoin de faire passer les engins de chantier pour venir faire les fouilles archéologiques. » Donc, en fait, au nom de soi-disant que des diagnostics archéologiques, ils sont en train d'obtenir des autorisations pour tout détruire. Et donc, ce qu'on a vu sur la 69, sur 53 km, là, c'est 5 fois plus en distance, et avec un dossier qui est encore plus mauvais, pas justifié, qui coûte 15 milliards d'euros, et des préfets qui font même plus semblant et même plus l'effort de faire une enquête publique avec des commissaires enquêteurs désignés par le tribunal, qui décident de compiler eux-mêmes directement dans les services de la préfecture et 4 jours après délivrer la fameuse autorisation environnementale dont je parlais tout à l'heure. Donc, du coup, Je vous invite en l'occurrence, alors là on a une autre cagnotte LGV non merci, parce que là on va avoir besoin de frais d'avocat importants sur l'administratif, et ou à aller aussi sur le registre numérique en ligne de consultation sur la LGV Bordeaux-Toulouse. Vous pouvez poster des avis en dénonçant ce passage en force de déni complet de démocratie environnementale, même si elle n'est pas très forte. Normalement, il y a quand même des enquêtes publiques avec commissaire indépendant. Et sur le fond du dossier, les éléments que je vous ai donnés, vous pouvez retrouver sur le site de LGV Non Merci ou sur le site des Amis de la Terre, Midi Pyrénées. Voilà. Merci beaucoup.
Merci Jean, et merci à vous.
Même audio, une mémoire sonore.